plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Carré, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde pour une émission spéciale consacrée à une série qui fait l'événement en ce mois de mai. La série, c'est Underground Railroad, donc en français, le chemin de fer souterrain. Une série qui sera diffusée sur la plateforme Amazon Prime dans le monde entier à partir du 14 mai, donc vendredi prochain. Une série, je le disais, qui fait l'événement pour plusieurs raisons. D'une part, elle a été réalisée par Barry Jenkins, oscarisé en 2017 pour Moonlight. Puis c'est aussi une adaptation du roman à succès de Colson Whitehead, roman qui a été, alors on ne va pas les citer tous, hein, mais il a été couvert de prix du National Book Award au Pulitzer. Et j'en passe. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Underground Railroad, donc une série en 10 épisodes. L'histoire de Cora, 16 ans, esclave dans les plantations de Géorgie, qui prend la fuite et va parcourir le pays pour conquérir sa liberté.
There I saw a dappled wonder settling across the fields, hovering on angel wings, brandishing a blazing shield.
Where do they go? The ones that run away and never return.
There is nothing here but suffering. Suffering. It is time to go.
Girl in that bulletin is wanted for the murder of a child.
Man lost my mom. Then me. Ain't no way he ever given up on finding me.
Voilà, la bande-annonce de Underground Railroad, hein, avec un travail magnifique sur le son. On a presque l'impression d'entendre les battements de cœur, hein, de l'esclave Cora. Alors c'est peut-être la série qui, 40 ans après Racine, Roots, en VO, nous obligera à voir Autant n'emporte le vent et autres mélodrames flamboyants sur le sud américain d'un œil nouveau. C'est vrai qu'on les a tous adorés, ces films qui nous faisaient miroiter un paradis, hein, de belles en crinoline, de cavaliers minces et élégants, de pelouses verdoyantes sur lesquelles il faisait bon siroter un mint julep ou jouer au croquet comme Scarlett O'Hara. Et puis tout à coup arrive cette série incroyable qui, mieux qu'aucune autre fiction, et on aura amplement l'occasion d'en parler dans cette émission, qui jette une lumière crue sur cette réalité en fait édénique en vous en montrant l'arrière-fond monstrueux, car à travers l'histoire de la jeune Cora, bien sûr, Underground Railroad nous oblige à voir, voilà, autre chose, la rapacité, la violence, la coercition, bref, sur quoi a pu se construire cette culture du Sud si vantée pour sa sophistication. Alors avec nous pour en parler aujourd'hui, Rosa Chococam, critique, fondatrice de la plateforme Atuba et co-autrice d'un livre paru l'an dernier aux éditions Hors d'atteinte, Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation. Vous êtes avec nous à nos côtés en plateau. Rhoda, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Sophie, merci pour l'invitation.
Merci à vous de l'avoir accepté. Rose Dinguet, vous êtes historienne et sociopolitiste. Vous travaillez entre autres sur les mobilisations des femmes en contexte colonial et post-colonial. Et vous enseignez à l'Université de Rouen. Bonjour.
Bonjour à Elisabeth, bonjour Sophie et merci pour l'invitation.
Et Grégory Pierrot, alors vous enseignez un petit peu à l'ouest, hein, de Rouen, à l'Université du Connecticut, donc sur la côte est américaine. Vous enseignez la littérature afro-américaine. Bonjour et bienvenue dans l'émission.
Bonjour Rose, bonjour Elisabeth, merci de m'avoir invité.
Alors je le disais, Underground Railroad de Barry Jenkins sera disponible dès le 14 mai sur Amazon Prime. L'histoire de Cora et César, hein, plus tard on ne verra plus que Cora, mais au départ sont deux jeunes esclaves dans une plantation de Géorgie. César a entendu parler du Underground Railroad, donc ce chemin de fer clandestin, et propose à Cora de gagner les États libres du Nord. Alors Barry Jenkins a repris la trame de Colson Whitehead. C'est à la fois donc un récit Grégory Pierrot qui est basé sur des recherches historiques, mais qui en même temps s'envole vers le fantastique et entre autres avec une matérialisation du fameux Underground Railroad. Ici, c'est, on dirait presque une préfiguration du métro dans la série, une sorte de train souterrain. En réalité, c'était quoi l'Underground Railroad ?
Oui, alors en réalité, c'était un réseau clandestin donc qui avec des bases dans les États esclavagistes du Sud. Et aussi des relais, des maisons privées généralement dans tous les États voisins et jusque nord et pour amener parfois jusqu'au Canada. Donc des groupes d'abolitionnistes blancs et noirs libres ou pas qui aidaient les esclavisés du Sud à s'échapper donc vers le nord, vers les États libres, donc potentiellement jusqu'au Canada.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup d'interviews, Barry Jenkins cite Toni Morrison et ses déclarations selon lesquelles l'expérience noire et en l'occurrence l'expérience de l'esclavage est ineffable et donc impartageable et donc intransmissible dans une fiction, et dit qu'il en est tout à fait conscient lui-même, mais que la durée lui permettait de raconter des choses qui étaient absolument impossibles à raconter dans une fiction classique de 1h30 ou 2h. Alors, je voudrais faire un petit tour de table avec vous trois, en commençant par Rose. Puisque vous nous avez fait l'honneur de regarder, de voir cette série en avant-première, et Dieu sait qu'elle est difficile à voir, qu'elle est extrêmement violente, on en reparlera. Rose, qu'est-ce qui vous a frappé ? Est-ce que vous avez l'impression que avec cette série, on est dans une sorte de, dans un vrai tournant dans la représentation de l'esclavage ?
Alors, ce qui m'a frappé, enfin, je sais même pas si je peux dire que ça m'a frappé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi comme certaines personnes de ma génération, donc des trentenaires au Cameroun, mais moi j'ai grandi dans une situation où moi j'ai vu Racine et j'étais très petite. Donc, je ne découvre pas la violence de la société coloniale esclavagiste avec cette série. C'est quelque chose qui m'a marqué, qui est ancré en moi. Récemment, on en reparlait avec Grégory et je lui disais que je ne savais plus si c'était le fait de mon imagination, mais il me semble que dans Racine, il y a une scène où on ampute un esclave. Et donc, pour moi, cette série ne marque pas nécessairement, à titre personnel, un tournant pour des personnes qui ont grandi en ayant regardé des séries comme Racine. Ça ne marque pas un tournant parce qu'on est vraiment dans ce récit de la férocité blanche, si on reprend le terme de Rosa, de l'écrivaine Rosa Amélie Plumel. Ce qui est peut-être, ce qui peut marquer un tournant, c'est que la violence que montre cette série s'inscrit dans une discussion récente autour du trauma porn. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus.
Alors, racontez-nous ce que c'est le trauma porn.
Le trauma porn, c'est cette idée qui veut que il y a une sorte de commerce fait autour de la souffrance des personnes noires, des personnes noires afrodescendantes, et notamment aux États-Unis. Et donc, il y a comme ça une tendance à montrer cette souffrance-là, alors aussi bien au cinéma que d'ailleurs encore récemment avec les images de George Floyd l'année dernière, et que cette tendance à montrer ces images comme ça de manière crue de violence ont un effet qui contribue à perpétuer la déshumanisation des personnes noires. Et donc elles n'ont pas un effet pédagogique.
Vous, Grégory Pierrot, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette série ?
Moi, ce qui m'a frappé, je pense, c'est vraiment la beauté infinie aussi de la cinématographie de Barry Jenkins. Bon, je pense que c'est presque un cliché à ce point d'en parler, tellement c'est devenu une espèce de marque de fabrique, mais c'est quand même visuellement c'est une série. Il y a des tableaux, je pense, qui vont rester imprimés pendant longtemps. Et Enfin, c'est pas un détail. J'ai envie de dire, il y a tellement, c'est une série qui brasse tellement de sujets énormes que qu'on pourrait presque en dire, ça en devient secondaire. Mais je pense que ça va contribuer à la, comment dire, à la enfin le fait que c'est une série assez à part, je pense tout de même. Même si je suis assez d'accord avec Rose, bon, évidemment les sujets abordés d'une certaine manière ne sont pas, bien sûr, pas nouveaux. Et pas forcément abordé de manière très 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 nouvelle non plus. Je dis ça sans critique négative, mais je pense que c'est vraiment l'ensemble et notamment le, enfin c'est cette cette maîtrise du visuel qui en font vraiment une série différente.
Et Grégory, juste une précision, c'est donc l'adaptation du livre, du roman de Colson Whitehead, mais lui-même a participé au scénario. Et il l'a enrichi ou c'est très très fidèle? Moi qui ai lu le livre, il me semble qu'il y avait des passages que je n'avais pas lus.
Oui, ouais, alors il y a vraiment quelques changements, des additions, mais dans l'ensemble, il y a quelques additions, très peu de soustractions.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler et puis aussi de parler de la violence dans le film, parce que Barry Jenkins dit qu'il l'a énormément atténué par rapport à la réalité historique. Mais avant, on va écouter Mahalia Jackson. C'est le générique de l'épisode 10 de Underground Railroad. How I got over. How did I make it over? You know my soul back in wonder, I didn't make it over. How I made it over, coming on over all these years. You know my soul back in wonder, how did I make it over? Tell me how we got over, Lord. Had a mighty hard time coming out over. You know my soul look back and wonder how did we make it over. Tell me how we got over, Lord. I've been falling and rising. But you know my soul, look back and wonder, how did I make it over? But soon as I can see Jesus, the man that died for me, man that bled and suffered, and he hung on Calvary. And I want to thank him for how he brought me. And I want to thank God for how he taught me. Oh, thank my God how he kept me. I'm going to thank him because he never left me. Then I'm going to thank God. Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec nos trois invités, Rhoda Chococam, Rose Dinguet et Grégory Pierrot, pour parler de l'incroyable série de Barry Jenkins, Underground Railroad, diffusée sur Amazon vendredi prochain. Alors, on parlait de la violence de la série. Moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que ce que je n'avais jamais vu représenté à l'écran, c'était comment la violence, en fait, reproduite, exercée par les Noirs sur d'autres Noirs, détruisait la communauté, mais aussi comment cette violence de l'esclavage avilissait les Blancs.
Il y a eu plusieurs films, mais j'ai pas l'impression que ce soit nouveau dans ce sens-là. Mais pour revenir, et je sais pas si je peux revenir un peu à ce qu'on disait sur ce que cette série, par exemple, peut apporter, je pense, de nouveau, c'est, j'ai pas l'impression que on avait déjà vu le sujet, donc, des narrations d'esclaves, parce que effectivement on a tendance à dire des films sur l'esclavage, alors que là on parle d'une personne qui a été esclavisée et qui raconte donc son histoire. Donc c'est pas sur la violence de l'esclavage, c'est ce qu'elle vit. Et c'est vrai, forcément, on va parler aussi de l'esclavage et du contexte plus général. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on n'avait jamais traité avec autant de sensibilité. Il y a eu 12 Years a Slave qui est sorti il y a quelques années et qui était un de ses premiers films faits par un réalisateur noir, donc descendant d'esclaves ou descendant d'Africains déportés. Mais avant, il y avait beaucoup aussi de films sur l'esclavage qui étaient faits par des réalisateurs blancs. Et c'était un débat assez courant aux États-Unis, donc de se poser la question de est-ce que les réalisateurs blancs ont autant de sensibilité pour pouvoir faire. Spielberg par exemple a fait un film sur l'esclavage, a fait plusieurs
Amistad, ou comment Richard Fleischer a fait Mandingo.
Exactement. Donc il y avait plusieurs débats et je pense que depuis que les réalisateurs noirs se sont emparés donc de ces narrations, on a un peu plus de sensibilité qui arrive sur les destins de ces personnes qui ont été esclavisées. Et sur The Underground Railroad, j'ai l'impression, en tout cas peut-être que je me trompe, que je n'avais jamais vu autant de sensibilité traitée, parce que il est question de violence, oui, mais il est question de culture, il est question de rapport entre personnes noires de la communauté. Il y a plusieurs choses au-delà de la violence, en fait. Et justement, c'est parce qu'il y a plusieurs choses au-delà de la violence que cette série, pour moi, fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne reste pas très longtemps sur la violence. Et même quand on parle de violence, on ne la montre pas forcément. Elle est dite ou alors elle est suggérée. Donc, je trouve qu'il y a donc cette... En tout cas, moi, personnellement, en regardant cette série, j'ai eu l'impression de voir quelque chose de nouveau.
Et d'ailleurs, les épisodes les plus violents et dont parlait Rose aussi, qui ont pu peut-être ou qui pourraient susciter des accusations en violence porn,
trauma porn,
c'est vraiment dans le premier épisode.
C'est juste
qui est effectivement
épisode.
très très saisissant, un peu aussi dans le second. Et après, il y a beaucoup aussi d'épisodes de violence psychologique, de menaces. Mais comme vous le disiez, est-ce que c'est aussi l'ampleur de la fresque? Il y a un aspect fresque. Et peut-être pour rejoindre ce que disait Grégory, avec l'ampleur de la mise en scène, on n'a pas du tout l'impression que c'est une série avec des moyens amoindris par rapport au cinéma. C'est en fait 10 films.
Oui.
Il y a des mouvements de caméra, il y a une ampleur aussi, il y a une générosité presque romanesque. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ?
C'est complètement mon sentiment, surtout que là, on a vraiment 10 épisodes sur ce livre. Qui était donc adapté. Et en général, on a 2 heures. On a des films, ou alors il y a effectivement eu une série en 2016 qui s'appelait Underground aussi. Mais en général, on a quelques heures. Donc on a 2 heures. Et là, on se retrouve avec une série aussi longue et détaillée, et où on passe du temps à développer tous les personnages, aussi bien des personnages secondaires que des personnages principaux. On parle du contexte, on parle des rapports humains, on parle de culture, on parle de plein de choses. Donc, moi personnellement, j'ai été très 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 surprise, en tout cas, de voir que c'était possible aussi de parler de d'esclavage, de parler de cette période en particulier avec autant de sensibilité, et justement arriver à se mettre dans tous les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de la violence et comment la violence est montrée. Et peut-être que aussi ce qui est de nouveau dans ce film en particulier, comparé à d'autres films comme 12 Years a Slave, ou je pense aussi très loin à Sankofa par exemple, de Haile Gerima, le réalisateur éthiopien qui est sorti dans les années 90. Quand on voit tous ces films, il y a par exemple beaucoup de scènes de viol. Par exemple, ces films-là, s'il y a quelque chose qui revient dans ces films, ce sont les scènes de viol qui sont montrées. Et dans ce film-là en particulier, il n'y a aucune scène de viol. Pourtant, même dans Harriet, qui est sorti il y a deux ans, il y avait des scènes de viol. Dans d'autres films, il y a des scènes de viol. Et là, on voit bien que Barry Jenkins évite sciemment de montrer les scènes de viol. Il en suggère une, mais on ne la voit pas. Donc je trouve que c'est très intéressant, en tout cas dans le traitement des femmes qui ont été esclavisées, qui est complètement nouveau, en tout cas dans ce contexte-là en particulier.
Alors justement, en parlant de violence, il n'y a pas que le fouet, il n'y a pas que le viol, il y a aussi le dressage des corps et des esprits.
Henrietta, would you try? Sorry, I'm late, Miss Lucy. Page 60 in your primer.
Henrietta, please continue.
Day, wait. In Georgia, what we are doing here is a crime. I would be fined $100, and you all would receive 39 lashes. That's from the law.
Alors voilà, je voulais absolument qu'on entende cet extrait hein, qui est donc dans le deuxième épisode de la série. On est en Caroline du Sud. C'est une scène extraordinaire parce que on est dans une salle de classe. L'héroïne Cora, elle arrive en retard et puis il y a une institutrice blanche qui lui fait la leçon en lui disant voilà sache que dans d'autres états, dans un autre lieu, tu pourrais avoir juste pour apprendre à lire, tu pourrais avoir 39 coups de fouet et puis moi j'aurais une amende sévère. Alors Rose Dinguet, c'est intéressant parce que on a l'impression en fait que la série toutes époques confondues, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul moment historique dans la série. La série nous promène en fait et nous montre plusieurs visages du racisme selon les États. Là, on n'est plus dans le racisme sadique hein, des plantations, mais on est quand même dans une forme de racisme beaucoup plus subtil, hein, qui est celui du dressage des corps.
Oui, complètement. Et avant de revenir là-dessus, je voudrais juste revenir aussi sur ce que a dit Grégory et puis Rhoda avant, parce que je suis parfaitement d'accord sur la question de l'esthétique du film. Effectivement, s'il y avait quelque chose aussi à retenir, c'est vraiment cette beauté des tableaux qui s'inscrit dans la suite de ce que Jenkins a fait. Hein. Quand moi j'ai regardé si Bell Street pouvait parler, j'avais été marquée par la beauté du film aussi. Et pareil pour Moonlight. Et donc vraiment, il poursuit cette manière, effectivement, je crois que c'est Rhoda qui a parlé de tendresse, de filmer avec tendresse des histoires qui peuvent être parfois dures. Et donc on se retrouve bien dans un contexte où par-delà, effectivement, la violence dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de tendresse qu'on retrouve même dans les personnages et entre les personnages et que j'ai trouvé... qui mettait beaucoup d'humanité, qui remettait l'humanité des personnes esclavisées vraiment au cœur de la narration. J'ai même presque envie de dire que s'il fallait avoir une incarnation de l'humanité, c'est notamment Cora qui incarne pour moi vraiment cette humanité alors résiliente, mais aussi avec une éthique politique de la solidarité et du soin. À l'égard des autres, elle le manifeste de plusieurs manières et dans plusieurs épisodes différents, cette éthique de solidarité et de soin qui vraiment, je trouvais que c'était vraiment le personnage, c'est la personnage principale, mais vraiment c'est elle qui incarne toute cette humanité que dans d'autres films on a essayé aussi de faire porter aux personnes, enfin de rappeler. Et sur la question de... donc des différentes époques. Ce qui a été intéressant pour moi de voir aussi, c'était de voir comment ça historicise toute la question où vous savez, aujourd'hui on parle de racisme ordinaire. Donc du fait que dans des actes quotidiens de nos vies en tant que personnes noires, on subit des actes racistes et je trouvais que ça évoquait ça notamment dans cet épisode en Caroline où en fait l'intérêt pour les personnes noires, il faut toujours se méfier quelque part de l'intérêt que des personnes blanches peuvent porter pour les personnes noires parce que en fait l'intérêt ne veut pas forcément dire un intérêt qui est pensé politiquement en termes d'égalité, en termes de commune humanité. Et notamment dans cet épisode, il aborde toute la question, et du coup j'ai trouvé aussi avec beaucoup de subtilité, de tendresse, des corps noirs, comme et notamment des corps de femmes, qui subissent les expérimentations médicales, les stérilisations forcées. C'est suggéré, mais quand on connaît cette histoire-là, on comprend tout à fait quels en sont les enjeux. Et effectivement, il l'a fait avec beaucoup de subtilité et de tendresse. Et on voit là que l'intérêt que porte cette société qui se montre comme progressiste, est un intérêt en fait qui n'a pour but que de continuer, de reconfigurer la subalternisation des personnes noires. Et notamment, en fait, ce qui était aussi intéressant dans cet épisode, c'est les scènes où on rejoue l'esclavage. Et c'était vraiment, il y avait vraiment quelque chose de...
Dans un musée qui est comme une sorte de d'exposition coloniale.
Exactement, exactement. Et donc, on voit comment, en fait, il faut même se méfier. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé ça. C'est vraiment se méfier même de cette idée du progressisme. C'est-à-dire que des gens qui disent on est progressiste, en fait, il faut toujours interroger ces concepts-là, ces notions d'ouverture et aller regarder au plus près, au plus près des pratiques, ce que ça veut dire pour les catégories subalternes.
Vous pensez que c'est une série, enfin, on sait hein, que Barry Jenkins l'a conçue pour obliger, entre guillemets, les États-Unis à regarder leur passé. Il s'est posé beaucoup de questions sur la façon, sur la représentation, beaucoup de questions aussi sur la représentation de la violence. Et puis, au moment où il était en train de terminer la série, le meurtre de George Floyd a eu lieu. Donc, c'est sûr qu'il y a une vraie résonance de cette série avec ce qui se passe en ce moment même aux États-Unis. Grégory Pierrot.
Oui, alors je pense pour reprendre un peu ce dont parlait Rose et répondre à votre question, je suis pas sûr que ce soit son but en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il sait aussi pertinemment qu'on peut pas forcer les États-Unis à regarder quoi que ce soit.
C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait, que ce souvenir du passé et le regarder en face était le seul moyen de casser. Alors je le cite de mémoire, hein, de casser la reproduction de la violence.
Alors je suis sûrement plus pessimiste que lui. Je pense pas que ce soit inutile, bien sûr. Mais je trouve, enfin, la série, ce qui est assez frappant et qui vient aussi du livre évidemment, c'est que pour moi il y a aussi une énorme réflexion sur le travail que la série est censée faire. C'est-à-dire donc ce qu'il annonce, ce que vous venez de citer. Bien sûr, enfin, je suis pas complètement cynique non plus. Je pense bien que ça fait partie des buts, mais il y a aussi une histoire qui est d'ailleurs reproduite dans la série elle-même, une histoire de ce genre d'initiative tombant complètement à plat ou étant ignorée ou étant détruite. Je vais pas encore révéler de trop de détails de l'histoire, mais on voit ceci dans la série elle-même. Et le livre lui-même, donc on a commencé un peu à en parler, mais le livre lui-même se fait écho de 300 ans d'écriture noire aux États-Unis, on le voit, on a à la fois changé beaucoup et rien changé du tout. Je pense que c'est vraiment un des dilemmes centraux de cette histoire, en fait. Sachant que ce sont des histoires qu'on connaît, qu'on a tous déjà vues, qu'on revoit littéralement des centaines d'années. Et la question, justement, on en est toujours à George Floyd, on en est toujours à revoir les mêmes scènes, les mêmes violences. Et je pense que c'est une des questions et un des cycles abordés dans la série, à vrai dire. C'est il y a un côté vain et il y a un côté absolument essentiel à raconter ces histoires. Donc c'est aussi un dilemme. Je voulais revenir un peu sur ce que Rose disait. Moi, une chose qui m'avait frappé à la fois dans le roman et donc qui est aussi dans la série, c'est cette espèce de et qui aussi, je pense, reflète ce dont je parlais. C'est une espèce de d'historicisme anachronique en fait. L'histoire est implaçable. Alors, on peut imaginer que c'est avant la guerre civile.
C'est vers 1850. On peut imaginer parce qu'il y a quand même le personnage de Ridgway que l'on voit jeune, qui va se recueillir sur la tombe de sa mère, morte en 1816. Donc, on peut imaginer que lui est né juste avant et qu'il a à peu près une quarantaine d'années. Donc, voilà.
Voilà. Pardon. Sauf qu'il y a beaucoup de détails de la série sont complètement anachroniques, en fait. Et c'est ça que je voulais dire. La scène en Caroline du Sud, par exemple. La Caroline du Sud ne permettait pas qu'on éduque les esclaves. Aucun des États esclavagistes n'avait d'école pour les esclaves. Ce sont vraiment des scènes d'après-guerre civile. De la même manière, la Caroline du Nord, je vais pas révéler ce détail, mais ce qu'on voit se passer en Caroline du Nord n'est pas non plus historiquement exact, en fait. Ça s'inspire d'événements historiques. Pour certains qu'on sait s'être passé après la guerre civile. Et donc, il y en a plusieurs comme ça à travers la série, des choses qu'on peut reconnaître historiquement, mais qui historiquement ne peuvent pas être placées là où la série semble être placée.
Et je pense qu'il y a vraiment un effort dans le roman et dans la série pour justement troubler cette idée de progrès dont parlait Rose, et troubler cette idée que les choses ont changé de manière fondamentale. C'est-à-dire,
c'est un cycle, en fait, c'est comme un cercle, l'histoire n'avance pas en ligne droite, c'est ça ? Cette idée qu'effectivement, on compose différentes périodes historiques pour en faire cet objet artistique, mais en fait qui tend un miroir, pour reprendre ce que disait Elisabeth, à l'Amérique actuelle.
Oui, et l'Amérique aussi, à travers les âges. Et en cela, c'est donc, je pense que ça fait vraiment l'écho donc d'une tradition d'écriture noire qui date des récits d'esclaves donc très tôt, hein, dès le XVIIIe siècle, et qui inspire, enfin qui est vraiment la base de la littérature afro-américaine, mais qui reste aussi la base de l'engagement artistique politique afro-américain. Et qui répète à chaque fois et explore ce même dilemme, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on peut espérer changer les choses par ce type de production, sachant qu'évidemment on n'a pas vraiment le choix en fait. Enfin, je dis on généralement, mais quand on est artiste afro-américain, c'est le mode d'expression et on doit espérer pouvoir changer les choses, sachant que c'est pas forcément facile quoi. Et donc je pense que d'une manière que je trouve vraiment fantastique personnellement, la série reproduit ces questions dans la fabrique même le tissu même, mettons, de la série elle-même.
Grégory Pierrot, Rhoda Chococam, vous vouliez réagir?
Oui. Mais
moi, j'avais une question à vous poser. Quand la revue Sight and Sound, donc très connue, hein,
oui,
Outre-Manche, disait, écrivait, il éviscère, Barry Jenkins éviscère le rêve américain. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je pense que de toute façon, le rêve américain, il est éviscéré depuis très très longtemps. Au final, ce que lui, il fait, c'est aussi rappeler que l'économie de la plantation, ou que la plantation en tout cas, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique entière en fait. Donc ce n'est pas juste dans le Sud, ça se passe aussi dans le Nord, et c'est dans d'autres. C'est pas aussi flagrant que dans le Sud, la violence n'est pas aussi flagrante, mais elle est quand même présente. Donc c'est beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment cette idée que aujourd'hui, comme à l'époque, il n'y avait pas d'endroit où une personne noire n'était pas en captivité. Donc n'était pas en danger, mais donc vraiment toujours cette idée de l'extension de la plantation en fait sur tout le territoire américain. Et je trouve ça très intéressant parce qu'au final on peut aussi se dire que quand on raconte l'histoire de cette façon-là, on peut aussi la voir aujourd'hui, donc voir que au final ça se reproduit, que les personnes noires aux États-Unis sont toujours en bas de l'échelle, sont toujours tuées par la police, etc. Qu'il y a eu une histoire, en gros, pour revenir un peu sur ce que Grégory disait sur l'anachronisme et aussi le fait qu'il y a il y a certains événements qui sont repris. Je pense par exemple à cet épisode où on parle de cette communauté de Noirs américains dans l'Indiana qui ont créé donc cette plantation, c'est pas une plantation, c'est une vigne
et qui est sont un peu paradisiaque,
très prospère et finalement qui se termine
qu'il y a des failles.
Qu'il y a des failles. Je pensais par exemple au massacre de Tulsa qui a eu lieu en 1920 à Oklahoma. Je pense que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu inspiré aussi de cette idée là que on peut pas être prospère, on est toujours en captivité, même dans cette prospérité économique complètement superficielle, que aussi bien qu'on soit d'une classe pauvre ou d'une classe bourgeoise, on est quand même à la merci du système raciste américain. Et c'est ce que moi, en tout cas, j'ai pu trouver dans cette série.
Where I should have always stayed. And now I'm ready.
sur RFI dans tous les cinémas du monde avec nos trois invités, Rose Dingue, Rhoda Chococam et Grégory Pierrot, pour parler de la série de Barry Jenkins. Alors, on a beaucoup parlé de la série, mais là, l'heure tourne et je voudrais qu'on élargisse un peu. Parce que c'est quand même assez incroyable, hein, ce qui se passe depuis quelques temps. Et puis, Sophie le disait, hein, tout à l'heure, il a eu beaucoup de moyens, Barry Jenkins, hein, pour faire cette série. Alors, bon, si la série cartonne sur Amazon, hein, ce qu'on lui souhaite, est-ce que tout va changer? Est-ce que ce sera un curseur, Grégory Pierrot? En tout cas, on est en train de vivre un moment charnière grâce aux plateformes, ça c'est clair.
Oui, oui, je pense que c'est indéniable. On voit une multiplication de productions qui abordent des sujets et qui abordent des sujets de manière assez novatrice. Donc la question, est-ce que ça va tout changer?
En tout cas, est-ce qu'on vit un moment charnière? Mais je vous pose la question à tous les trois. Hein, je la pose aussi à Rose et à Rhoda. Enfin, moi j'ai été étonnée parce que dans le New York Times, je lisais un article excellent, hein, de Veronica Chambers, When Blackness is a Superpower, c'est-à-dire quand la peau noire devient un super pouvoir. Et la journaliste faisait une analyse de Falcon and the Winter Soldier et puis aussi de DC Comics qui a sorti des oubliettes le personnage de Nubia, donc une Amazone noire. Je vois que Sophie Torlotin qui est notre spécialiste hoche la tête, mais bientôt on va avoir une réalisatrice noire, hein, Nia DaCosta, qui va réaliser un film Marvel. Enfin, on a quand même l'impression qu'on est à un moment charnière, non?
Oui, juste rapidement, quand Chambers dit blackness, je pense que c'est important de noter qu'elle parle pas de peau noire, hein. Elle parle vraiment c'est un terme dont on n'a pas vraiment de mot en français. On dit noirité
L'être
parfois.
Noir.
C'est aussi très politique. Je pense que c'est facilement compris dans le contexte américain. En France, on y arrive doucement. Mais c'est vraiment c'est vraiment crucial. Et je pense que ce qu'on voit et qui en effet, est vraiment, un changement sinon fondamental, mais vraiment un tournant, à mon avis, c'est vraiment la manière dont ces questions sont abordées, donc dans des productions de grande audience. Donc la complexité et aussi cette réflexion sur la forme, sur le fond qu'on voit chez Jenkins, qui est inspiré, comme je disais tout à l'heure, par des siècles d'écriture et de réflexion intellectuelle noire. Oui, ça, je pense, c'est vraiment nouveau. Enfin, c'est nouveau de le voir de manière aussi facile, mettons, sur des plateformes auxquelles tout le monde a accès, et aussi de voir, enfin, une réflexion aussi poussée. Et bon, comme vous disiez, c'est notamment possible parce qu'il a 10 épisodes, il peut faire 10 films, ce qui aurait été impensable il y a même 10 ans, je pense.
Ce qui est intéressant, en tout cas, avec la série de Barry Jenkins, c'est déjà de comprendre qu'il y a encore des histoires autour de l'esclavage à raconter, qu'on n'a pas fini de raconter ces histoires-là, et qu'il y a encore une façon aussi de raconter, par exemple, l'histoire des femmes noires dans l'esclavage, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment discuté, mais il y a, je pense, en tout cas, dans la série de Barry Jenkins, vraiment un intérêt particulier qui est accordé aux femmes noires, aussi bien au personnage de Cora, ou alors à sa mère aussi, qu'on voit au début de la série, et qu'on revoit à la fin, comment est-ce que la violence sur leur corps est racontée, qui va au-delà donc du fait qu'elles étaient considérées comme des au-delà de leur genre, en fait. C'est-à-dire que les esclaves n'avaient pas de genre, dans le sens où chacun, tout le monde travaillait de la même façon, tout le monde était victime des mêmes sévices, mais les femmes noires, en tout cas, avaient un genre aussi particulier parce qu'elles subissaient donc ces violences, ces viols, elles étaient des reproductrices, etc.
C'est ça, elles devaient fournir quand même, parce qu'on voit vraiment, même dans le langage, la façon dont les blancs disent « it », c'est-à-dire ce qu'on n'a pas en français, mais la chose au lieu de « lui » ou « elle », par exemple, c'était considéré comme des meubles, des produits.
Exactement, donc je pense que c'est très intéressant, en tout cas, la manière dont Barry Jenkins aborde ce sujet et qu'il ouvre donc une perspective pour d'autres réalisateurs, que ce soit aussi bien des réalisateurs pour des films ou alors pour d'autres séries, qu'il est encore possible aujourd'hui de raconter des histoires autour de l'esclavage et sur les personnes qui ont été esclavisées.
Alors, Rose Grégory Roda, il nous reste très très peu de temps, mais j'aimerais quand même qu'on parle de la France, hein, parce que Roda disait tout à l'heure, il y a très peu de films aux États-Unis sur l'esclavage. Nous, en France, bon, c'est pas compliqué, on en a un, ça s'appelle Casse-Départ. C'est une comédie, voilà, dont on peut penser ce qu'on veut, mais bon, qui est quand même assez assez grossière. Et c'est vrai que c'est quand même très très troublant. Enfin, tout ça en plus est en résonance avec beaucoup de choses dans l'actualité, les 20 ans de la loi Taubira très bientôt, hein, qui reconnaît l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, toutes les célébrations autour du bicentenaire de la mort de Napoléon et toute la polémique, non, c'est pas une polémique, le fait que Napoléon est quand même
qui a rétabli
l'esclavage. Donc où en est-on en France? On a l'impression qu'on est très très loin d'avoir notre Barry Jenkins et notre Underground Railroad. Vous avez l'air désespérée quand je parle.
Non, je rigole parce que c'est vrai que en France il n'y a presque rien. En faisant un peu de recherche, on peut retrouver par exemple le film de Guy Delaurier, qui est un réalisateur martiniquais, qui a fait au début des années 2000 un film qui s'appelle Le Passage du Milieu. Donc ça, c'est un film qui a été fait en tout cas sur l'esclavage en plus de Case Départ, et que c'était pas une comédie par exemple. Mais ça date du début des années 2000, et depuis Case Départ, il n'y a pas eu grand chose, pour ne pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu des documentaires à la télévision, il y a eu par exemple cette série Les Routes de l'esclavage sur Arte il y a quelques années. Donc il y a des
c'était un documentaire.
Voilà, c'est une série documentaire en plus sur Arte, et donc il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, mais à la télévision et plutôt dans le style documentaire. Mais au niveau pop culture, accessible pour un public, je veux dire un public qui voudra aller voir ces histoires peut-être au cinéma, il n'y a pas eu grand-chose. Et je pense que ça dit quelque chose aussi sur l'incapacité, en tout cas en France, de pouvoir relier cette histoire à la société actuelle. Donc comment est-ce que l'histoire de l'esclavage et de la colonisation continue à avoir des influences sur la société actuelle, sur la condition des personnes noires ou autres en France, alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'ils ont compris en tout cas que leur histoire est indissociable de l'histoire de l'esclavage et que leur pays se construit sur cette histoire-là. Alors qu'en France, on n'est pas du tout arrivé là, et que quand il faut parler de ce sujet ou quand il faut créer des fondations, par exemple, il y a une fondation sur la mémoire de l'esclavage, mais pour créer cette fondation, ça a été une très longue bataille. Donc je pense que ça dit juste quelque chose sur à quel niveau on est sur ces sujets-là, en tout cas en contexte français.
Rose Dinguet, Grégory Pierrot, est-ce que vous êtes aussi désespérée que Roda Choukoukam?
Oui, non, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu le vide intersidéral. Et surtout, moi, tout le long, en fait, parce que cette série, elle est sur les États-Unis, mais elle dit beaucoup de choses. Moi, je l'ai aussi regardé comme quelque chose qui dit, comme une série qui dit quelque chose sur les conditions noires, malgré la spécificité des États-Unis où l'esclavage a eu lieu sur le territoire, on va dire, américain. Mais sur les expériences noires, mais aussi sur du coup les expériences blanches et cette question de la domination blanche. Et donc en France, c'est assez fascinant parce que c'est vraiment le vide intersidéral, et qu'aujourd'hui on reste dans cette narration de la France, parce que c'est ça qui bloque aussi, c'est la narration de la France libératrice. La France, le pays des droits de l'homme. Alors, pas des droits humains, parce que non, c'est des droits de l'homme. et j'ai envie de dire, dans l'homme blanc, bourgeois, et on peut rajouter quelques autres adjectifs.
Oui, et puis en France, il y a toujours cette fiction, en fait, que le racisme n'existe pas, d'où le fait que, voilà, pas de statistiques raciales ou très difficiles à réaliser.
Mais je pense que c'est quand même important de dire qu'il y a, en France, en tout cas, c'est vraiment au niveau de la pop culture qu'il y a ce problème, parce que la question de l'esclavage est étudiée dans les universités, il y a des thèses, il y a une transmission qui ne se fait
dans
pas
l'imaginaire,
au niveau de l'imaginaire collectif, c'est
ça. Qui préfère célébrer Napoléon. Vous, Grégory Pierrot, depuis votre Connecticut, comment vous voyez les choses?
Oui, bah, je pense, enfin, vous parlez, le bicentenaire Napoléon, je pense, a exposé tous ces problèmes
de manière
assez drastique. on parlait des représentations de l'esclavage dans les films français. On a peut-être oublié cette mini-série sur Toussaint Louverture il y a quelques années, donc qui avait été un ratage assez effroyable, de mon point de vue, mais qui, pour encore une fois, je pense, est une illustration assez enfin une illustration du problème. On ne parle jamais d'Haïti, on ne parle jamais de la révolution à Saint-Domingue, on ne parle jamais de l'esclavage français, et quand on en parle très rarement, c'est en général pour se trouver des excuses. La série faisait un peu ça d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui s'en rappellent, il fallait évidemment qu'il y ait un héros blanc, notamment pour un peu qu'on se sente pas trop triste dans les chaumières. Michel Rolf Trouillot est un anthropologue haïtien justement qui parle de la mise sous silence du passé. Et cet effort en France est assez fantastique tout de même. Et donc je parle bien sûr, enfin, encore une fois, de la révolution haïtienne, parce que c'est l'événement, un événement de portée mondiale qui engage directement la France, mais dont personne n'entend jamais parler. C'est un événement qui change la face de la révolution française et la face de l'histoire française, mais dont on n'entend jamais parler. Et ça, pour moi, c'est vraiment... C'est le comportement typique dans la culture française face à une histoire qu'on ne peut pas séparer de l'histoire de France, mais qu'on essaye avec force de séparer depuis des siècles. Et bon, comme en parlait Rose, c'est impossible à séparer, et il y a plus en plus de gens qui le savent et qui le disent. On voit le résultat. On a des ministères de l'éducation qui accusent les universitaires qui font le travail dont parlait Rhoda d'être des agents de sédition. Et donc, pour en revenir à notre sujet, je pense qu'évidemment, une des manières dont on parle de ces choses, c'est par le biais de la culture populaire. Ces textes existent en France, que ce soit des romans, enfin de la poésie, de la musique, etc. Mais vraiment au niveau des films et des séries télé, on a 40 ans de retard pour le moins, voire plus. Et alors qui sait, peut-être que ces nouveaux studios, justement, peut-être que grâce à Amazon, etc. On va voir un changement. Je ne retiens pas mon souffle, comme on dit aux États-Unis, mais c'est un espoir qu'on peut avoir, je pense. Underground, thunder pounds when I stop the ground. Like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants some? Don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gonna rain. So now we sitting in a drop top soaking wet. In a silk suit, trying not to sweat. Hit somersaults without the net. But this will be the year that we won't forget. 1999.
C'est la fin de cette émission avec Outkast, B.O.B., Bombs Over Baghdad. C'est la bande musicale, la formidable bande musicale d'Underground Railroad, donc diffusée vendredi prochain dans le monde entier sur la plateforme Amazon. Ne le ratez pas. C'est vraiment un moment important. Merci à tous les trois, Rhoda Tchogokam, Rose Dingue et Grégory Pierrot. Merci d'avoir aussi bravé, Grégory, le décalage horaire. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré.
À la réalisation, Jérémy Boucher et Fanny Renard. Rendez-vous la semaine prochaine avec une émission spéciale que nous concocte Sophie Torlotin et consacrée à Indiana Jones.
Du monde. RFI.